France Inter, le 13-14, Marion Loup.
La Russie est-elle sur le point d'envahir l'Ukraine? Cette question lancinante est au cœur ces derniers jours des préoccupations, des rendez-vous diplomatiques et même des manœuvres militaires, alors que 100 à 150 000 militaires russes sont massés à la frontière ukrainienne. Les États-Unis en sont persuadés, Moscou cherche simplement un prétexte. Selon le porte-parole du Pentagone, le Kremlin envisagerait même de filmer une fausse attaque ukrainienne contre la Russie, avec des images truquées de lieux détruits, de cadavres et de victimes incarnées par des acteurs, le tout pour justifier une intervention de ces troupes. Bon, pas de preuves présentées jusqu'ici, mais cela montre la tension qui existe entre la Russie et l'Occident, tension qu'Emmanuel Macron espère désamorcer avec son déplacement aujourd'hui à Moscou, on en parlait dans le journal, et demain à Kiev, en Ukraine. Pour évoquer avec nous cette drôle de guerre larvée, une chercheuse associée à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, autrice des influences et manipulations des conflits armés modernes aux guerres économiques chez VAE Éditions. Bonjour Christine Dugoin-Clément.
Bonjour.
Christine Dugoin-Clément, cette vidéo truquée qui est évoquée par le Pentagone et qui justifierait une invasion russe de l'Ukraine, c'est crédible ?
Alors en fait, ce type d'opération peut être mené de deux manières. Soit vous allez juste créer une vidéo d'une fausse attaque, soit vous créez une fausse attaque, ce qu'on appelle des false flag attacks. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les attaques cyber, où finalement vous créez l'occasion de pouvoir répondre, ce qui vous met dans une position d'être quelque part dans votre bon droit, avec toutes les guillemets qui conviennent, et qui permettent de correspondre au discours russe, qui est de dire qu'ils n'attaquent pas, qu'ils tendent la main de manière régulière et de manière récurrente, mais qu'ils sont attaqués de manière plus ou moins directe. C'est en lien avec le discours que l'on a quant au déploiement de l'OTAN vers l'Est, que la Russie prend comme étant une attaque. Donc à ce niveau-là, on aurait une crédibilité. En plus, l'histoire russe, hein, qui était les parents de la Maskirovska, donc, qui sont des pratiques qui permettent à influencer leurs adversaires pour obtenir ce que l'on veut, sont des pratiques traditionnelles. Donc quelque part qu'il y ait cette crainte est audible et légitime. Est-ce que pour autant on passera de la crainte à la réalisation de cette opération-là, mais c'est bien tout l'enjeu. Et puis, plus récemment, dans le conflit du Donbass, qui est dur maintenant...
Qui est la région séparatiste de l'Est de l'Ukraine, qui est pro-russe.
Tout à fait. Donc, qui dure maintenant depuis 2014, les républiques maintenant autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Eh bien, depuis le début du conflit, on a été amené à voir ce type de vidéos, de contenus, être diffusés avec parfois des images réelles, mais repositionné dans des contextes qui ne l'étaient pas, qui étaient décalés de date, voire des montages. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui permettent de craindre ce genre d'opération.
Alors, cela dit, à ce jour, les États-Unis ne donnent pas de preuves que cette vidéo est une vidéo est vraie, existe vraiment.
Non, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils craignent qu'il y ait ce type d'opération. Si vous voulez, on est dans une position qui est, tout le monde le sait maintenant, extrêmement tendue, avec des troupes qui se massent et qui sont dans la nature des matériels et des hommes massés en capacité de pouvoir faire une incursion militaire. Alors après, là, on a des débats entre ce que ça serait juste une incursion, jusqu'où, dans quelle profondeur au niveau de l'État, et puis pour quelle finalité. Mais si vous voulez, l'enjeu serait de pouvoir être légitime et limiter la dégradation dont il serait responsable. Et c'est pour ça qu'au final, quelque part, les États-Unis prennent de l'avance en disant, voilà, en posant les choses, si cela arrive, ils laissent toute latitude de... Et je pense que la Russie, de son côté, préviendra en disant, mais regardez, une attaque réelle aura été organisée pour être maquillée en false flag. Donc vous allez avoir une bataille discursive, quelque part, avec d'un côté, attention, on sait que vous êtes en capacité de le faire, de l'autre, du déni plausible. Et effectivement, dire cela peut arriver ne veut pas dire que cela se fera. C'est une possibilité.
Ce que vous dites dans votre livre Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques, c'est que l'Ukraine a été un laboratoire pour ça de la part de la Russie. Il y a déjà eu des manipulations de ce genre.
Alors, l'Ukraine, effectivement, a été considérée notamment par le centre de l'OTAN qui travaille principalement sur le cyber, qui est basé à Tallinn, a été considéré comme étant un laboratoire à ciel ouvert d'un large spectre d'opérations d'influence, utilisant différents canaux, différents médias et différentes techniques. Donc aussi bien, j'allais dire quelque chose qui est maintenant devenu traditionnel, c'est-à-dire l'usage des réseaux sociaux pour aller diffuser des fake news ou de la désinformation, voire des contenus de propagande, créer des profils ou réutiliser des profils qui étaient connus par les cibles que vous visiez afin qu'ils aient beaucoup plus confiance dans ce qui va être dit, donc que le contenu soit plus crédible. L'objet étant de créer un contexte qui sera favorable à ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors ça peut être d'avoir une tension qui permettra un faux pas, quelque part, à votre adversaire qui justifiera votre contre-attaque. Ça peut être démoraliser des troupes pour faciliter, ça peut être créer le doute quant à la légitimité d'un gouvernement, ça a été un des gros arguments, notamment sur le gouvernement de Kiev, qui n'était pas légitime, qui avait volé le pouvoir, les tortures sur les populations civiles, enfin on a eu énormément de choses qui ont été amenées. Alors on est passé aussi par les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les journaux, et y compris à un moment sur des supports publicitaires un petit peu plus originaux. Fut un temps où il avait été émis l'idée de créer Novorossiya, donc c'est-à-dire de prendre tout un canal, si vous voulez, de territoire, une bande de territoire du Donbass redescendant tout le long de la mer d'Azov, et vous aviez eu à ce moment-là, sur la ligne de front, des paquets de cigarettes diffusés qui s'appelaient Novorossiya. Donc vous aviez même des supports qui permettent de familiariser avec une idée qui pouvait être extrêmement divers et parfois originaux.
Alors Christine Dugoin-Clément, aujourd'hui le président Macron se rend en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et parler de cette crise en Ukraine. Est-ce que lui, en quelque sorte, en voulant jouer en plus, en même temps, en essayant de voir un peu de chaque côté la légitimité de chacun, est-ce que lui, il est otage d'une guerre de manipulation ?
En tout cas, il est dans une position qui est extrêmement délicate. Alors, la France était très impliquée, de même que l'Allemagne, dans la mise en place de processus de paix, sous la période de M. Hollande et Mme Merkel, notamment, avec des résultats qui n'ont pas atteint ce qui était attendu. La guerre, et l'objet étant de finir la guerre dans le Donbass. Donc la France a un rôle assez particulier. En plus, il a maintenant les responsabilités au niveau de l'Union européenne que nous savons, ce qu'il met dans une posture particulière. Nous sommes juste avant des élections, donc il y a beaucoup à jouer. Revenir les mains vides sera très compliqué. Maintenant, on peut difficilement s'attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel et une solution immédiate et imminente. Et au niveau de l'Ukraine, qui est quand même le premier intéressé par tout ce dossier, c'est très délicat parce que on a une position qui n'est pas assez pour eux, pas assez dure par rapport à la Russie, et ils craignent finalement que une négociation ne se fasse malgré eux ou sans eux, qui pourrait par exemple passer par une implémentation complète et totale des accords de Minsk 2 signés en février donc 2015 pour mémoire, et qui stipule différentes choses, mais notamment l'implémentation d'abord du volet politique de la guerre et ensuite militaire. Ce qui voudrait dire que vous auriez des députés séparatistes et pro-russes à la Rada, donc l'Assemblée nationale ukrainienne, ce qui aurait un impact évidemment sur la politique ukrainienne, et Kiev craint des chevaux de Troie. Donc voilà, beaucoup de choses pourraient être négociées. Et il a une position qui est éminemment délicate.
Je prolonge ma question avec celle de Sébastien qui nous a écrit sur l'application France Inter. Il dit, est-ce que Monsieur Macron est reçu en tant que président européen ? Quelle parole porte-t-il qui pourrait favoriser une désescalade ?
Eh bien, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut demander et quelle va être la marge de manœuvre ? Donc la Russie, par la voix de Dmitri Peskov, porte-parole, lui-même dit qu'il ne s'attendait pas à avoir des avancées significatives. Donc on en est là avec cette pression donc militaire, et qu'est-ce que l'on va pouvoir poser, qu'est-ce que l'on va pouvoir demander ? C'est-à-dire, voilà quels pourraient être les enjeux au niveau des sanctions. On sait que de toute façon, si nous avons une désescalade, ça ne sera pas par mouvements unilatéraux. Donc on n'aura pas une désescalade où la Russie accepterait de faire un repli complet ou partiel, puisque rappelons-nous que au printemps dernier, il y avait déjà eu des premières troupes massées, et que finalement très peu ont été retirées avant qu'elles ne soient re-renforcées à partir du mois de décembre dernier. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la Fédération de Russie, de manière unilatérale et quelque part parce qu'on leur aura demandé, serait-ce poliment, sans avoir de contrepartie, replie de manière totale. Donc c'est là où on verra quels sont les éléments de négociation. Et malgré tout, il y a une partie des éléments de négociation qui sont dépendants de l'Ukraine, en disant quelle sera la possibilité, quelle sera la posture, puisque, mine de rien, je le rappelle, mais le premier acteur est tout de même les Ukrainiens et son gouvernement, qui subissent une guerre sur leur territoire depuis longtemps, qui sont au risque de pouvoir avoir une invasion partielle, totale, ou une pénétration dans le territoire à profondeur plus ou moins forte, ce qui aura un impact social, humain, lourd,
et d'ailleurs,
si ça devait arriver.
Et d'ailleurs, de la part d'Emmanuel Macron, aller d'abord à Moscou, puis à Kiev, est-ce que c'est un message qui vous semble négatif en termes d'impact sur l'opinion, notamment c'est ce que disent certains candidats à la présidentielle en France.
Alors, la position est assez, elle est logique dans le contexte global. Est-ce que c'est un signal positif ou négatif? Pour la Russie, c'est très certainement un signal positif, puisque, la Russie est revenue au premier rang des acteurs de la politique internationale. C'est-à-dire que là, rappelons tout de même qu'ils ont traité en direct avec Washington, quelque part en bypassant l'Union européenne et les pays européens qui ont eu bien du mal à revenir quelque part à la table des négociations. Nous n'étions pas le premier choix, à un moment il faut se le dire. Là, on ne passe pas par l'Ukraine au premier titre. Donc on est aussi dans la posture où, on va déjà voir celui qui est en position de faire dégénérer la situation pour tout le monde, y compris pour l'Union européenne. Parce qu'on parle d'un risque d'engagement, donc de guerre cinétique, mais d'autres sanctions qui sont agitées à l'heure actuelle, notamment au niveau du système bancaire SWIFT, l'exclusion du système bancaire SWIFT, aurait des conséquences pour la Russie, c'est évident, mais pas uniquement pour la Russie. Et là encore, obligerait à ce que l'on force une entreprise privée à prendre position.
Autrement dit, on ne parle pas d'une guerre seulement militaire.
Non, on est sur quelque chose de bien plus large. Et on pourra, s'il y a une désescalade, de toute façon, ce sera sur un principe de négociation. Cette négociation, elle peut être au niveau politique, elle peut être au niveau social, elle peut être au niveau économique, et évidemment, au niveau militaire, si, in fine, on n'y arrive pas. Mais en règle générale, vous êtes sur le prolongement quand on n'a plus réussi à s'entendre et à arriver là-dessus. Et bien évidemment, dans une négociation, les accords, en règle générale, satisfont rarement les deux parties de manière égale.
Olivier nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel. Je voulais demander à votre invité, étant donné que des dizaines de milliers, voire j'ai lu plus de 100 000 soldats ont été déplacés près des frontières de l'Ukraine, est-ce que, si l'on prend en compte le coût phénoménal de ce type d'opération, avec la logistique, les véhicules, tout ce que cela peut comporter, est-ce qu'on ne peut pas d'ores et déjà penser que M. Poutine a pris sa décision d'envahir au moins partiellement une partie de l'Ukraine?
Merci Olivier pour votre appel. La réponse de Christine Dugoin-Clément.
Écoutez, ce que vous dites est assez juste. Si on est simplement dans la démonstration de force, c'est une démonstration à très grand coût. J'ajouterai aux éléments que vous avez justement soulignés un autre qui est que déplacer des hommes en hiver dans cette région du monde sous tente a une usure humaine qui est non négligeable. Donc, à l'heure actuelle, on est dans une posture où tout est sur la table. Vous pouvez tout poser. Maintenant, si vous n'envisagez pas, en cas de dégradation de la négociation, de pouvoir aller au-delà, c'est quand même avec un coût très important. Et c'est pour ça que c'est notamment très fortement pris au sérieux par les différents et analystes et gouvernements. Ça ne veut pas dire que cela se fera, mais ça veut dire qu'on se met en position de pouvoir le faire et qu'on montre les muscles très 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 fortement.
Dans ce cadre, c'est important pour le président Poutine de s'afficher aux côtés du président chinois Xi Jinping comme il l'a fait la semaine dernière?
Bien sûr, parce que vous êtes dans une posture où quelque part votre backup, notamment par rapport aux Américains, est quand même non négligeable. Nous avons tous été les témoins et parfois les dommages collatéraux d'une guerre économique qui s'est livrée entre Washington et Beijing. On a une puissance qui est très forte et quelque part se positionner comme telle, attention, on pourrait avoir finalement une extension de la crise et puis des résurgences, notamment en mer de Chine. Donc oui, c'est éminemment important. Encore une fois, il y a soutien et jusqu'où est-ce que l'on peut aller sur le soutien? Pour l'instant, je pense que quelque part, tout le monde a un intérêt rationnel, j'aurais tendance à vous dire, à ne pas rentrer dans un conflit. Après, la rationalité elle-même a ses limites et on a posé sur la table de quoi, en tout cas, à pousser une négociation en disant que là, on n'était pas dans une position de uniquement de démonstration.
Alors,
on se laisse la possibilité.
On a compris que la guerre, elle se joue aussi en ce moment sur Internet, sur les réseaux, dans l'opinion. Est-ce qu'elle se joue aussi via des relais d'opinion? Peut-être certains hommes politiques, je pense à Éric Zemmour ce matin, le candidat à la présidentielle française, qui disait que Poutine était un patriote russe qui était légitime dans sa démarche de faire de la dissuasion, en tout cas avec ses troupes à la frontière.
Alors, quand vous êtes dans une période de conflit, vous aurez de toute manière et toujours, des canaux qui vont soutenir, qui vont essayer de faire en sorte qu'une opinion publique soit plus ou moins favorable. Alors, en règle générale, si vous êtes à l'origine d'une stratégie, eh bien qu'elle soit favorable et que finalement cette opinion publique puisse, par effet boomerang, par un principe de backlash, faire pression sur des dirigeants. Après, si au niveau pour un Russe. La position de Vladimir Poutine se justifie avec tout le discours qui a pu être mis en place préalablement. Vous êtes dans un État qui a une approche qui est particulière, et rappelons-nous que la popularité de Vladimir Poutine n'a jamais été aussi forte qu'au moment de l'annexion de la Crimée. Ça ne veut pas pour autant dire que ça se justifie ou que ça soit raisonnable et justifié.
La chercheuse Christine Dugoin-Clément, autrice de Influence et Manipulation chez VAE Éditions, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci à vous.